Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 6, le monde femme. Dans le plus populaire des livres, la Bible, la partie la plus populaire a été incontestablement le Cantique des Cantiques. Les mondains et les non-croyants, tout aussi bien que les croyants, l'ont admiré, lu et relu, comme la haute expression de l'amour oriental, ou tout simplement de l'amour. C'est visiblement un recueil décousu de chants d'amour, mais placé dans un ordre qui donne à l'ensemble un certain degré d'unité. Ce qui frappe, c'est que ce livre, tellement adopté des Juifs qui, n'ayant nul chant de joie, ont pris celui-ci pour leur Pâques, ce livre, en grande partie, n'est nullement juif. Il est d'un élan et d'un charme, d'une liberté singulière qui détonne et contraste avec la sombre Bible des Hébreux, généralement sèche et tendue. Ici, il y a au contraire une effusion, un abandon, je ne dis pas de cœur, je ne dis pas d'amour, mais de passion et de désir, sans borne. C'est un chant de Syrie. La Sulamite est syrienne. La juive est bien plus contenue. Son amant, à coup sûr, ne l'eût pas comparé à la cavale arabe indomptée de Pharaon. Ce n'est pas d'elle qu'il eût dit, l'admirant avec tremblement, qu'elle était plus terrible qu'une armée en bataille. Les juifs, par les lois les plus dures, ont contenu la femme, lui imputant la chute et la craignant toujours comme impure. Lévitique 12:5. Et suspecte, à ce point de donner au père l'étrange avis, ne souris jamais à ta fille. Ecclésiastique 7:26. Le cantique, à coup sûr, ne fut point sorti d'une noce juive. Cérémonie sévère, où la femme achetée, amenée par celui qui lui passait l'anneau à l'oreille ou au nez, subissait un jugement assez dur, trop public sur sa virginité. La juive, si charmante et touchante d'humilité, n'existe pas en droit. Elle n'est pas comptée dans les dénombrements du peuple. La Sulamite du Cantique est bien plutôt la fille de Syrie, armée des sept esprits pour envahir, troubler, tenter, enivrer l'homme, en faire un faible enfant. Et c'est tout le sens du Cantique. Sens qui en ressort fortement dès qu'on écarte les surcharges grossières dont on l'a obscurci. Les Juifs, ayant eu la très bizarre idée de chanter au Saint-Jour ce chant luxurieux, ont cru le sanctifier en supposant d'abord que c'est un chant de noces honnêtes et légitimes, puis de noces royales, ce qui purifie tout, puis les noces bénies du Saint-Roi Salomon. De là des ornements grotesques, les 50 hommes forts autour du lit, etc. Puis du luxe, de l'or, saint métal. Au moment où l'amante ne dispute rien, livre tout, l'amant qui admire et adore dit platement « c'est beau comme les œuvres des orfèvres ». Addition misérable, mais qu'il est aisé d'écarter. Le livre dégagé reste admirable de sa beauté locale, toute syrienne, brûlant d'amour physique, formal et défiant, plein d'un souffle morbide, d'une certaine fièvre, comme d'un vent d'automne mortel et délicieux. L'histoire n'est pas obscure comme on a tâché de la faire, elle est trop claire en vérité. C'est le printemps, le moment où en Syrie, en Grèce et partout, on faisait une fête d'ouvrir et goûter les vins de la dernière vendange. C'est le moment où le sang rouge d'Adonis coulait à Byblos avec les sables du torrent, torrent d'amour lui-même, de plaisir éperdu, de pleurs. Un beau jeune homme, fils d'un émir, je pense, fort jeune, il est encore d'ivoire, Eborneus, blanc, délicat, est venu aux celliers qui sont creusés dans la montagne près de la ville pour ouvrir et goûter le vin. Sur son passage, il voit une belle fille, brune, richement dorée du soleil d'Orient, qui près de là garde sa vigne. Il l'invite à venir, à entrer, à goûter. Elle est fort ignorante. Ce mignon a la voix si douce, lui semble une fille, une jeune sœur. Elle obéit, le suit, et je ne sais ce qu'il lui fait boire, mais elle sort palpitante. Elle dit « Encore, et baise-moi d'un baiser de ta bouche. Te toucher, c'est plus doux que le vin que tu m'as fait boire. Quelle suave odeur vient de toi, je te suivrai à ton parfum. » L'admiration de l'innocente, c'est le sein si blanc du féminin jeune homme, ivoire nuancé de sa fille. Elle se compare et rougit, s'excuse de ne pas être blanche. Si je suis brune, le soleil en est cause. Mes frères qui me font la guerre m'ont fait garder cette vigne. Et voilà que ma vigne, à moi, je n'ai su la garder. Je vois d'ici son triste et fin sourire. Nulle plainte, mais je devine son petit cœur est inquiet. Si ses frères sont ses maîtres, c'est qu'elle est orpheline. Ne sera-t-elle pas maltraitée? J'en ai peur, elle aussi. Elle a l'air de sentir que maintenant, c'est lui qui doit la protéger. Elle se serre à lui et ne veut pas le quitter. Dis-moi, toi que j'aime tant, de quel côté sont tes tantes? Elle croit dans sa simplicité qu'il conduit ses troupeaux lui-même. Dis-moi, où couches-tu au repos de midi? Et comme il se tait, elle ajoute avec une gentille menace pour le rendre jaloux, que je n'aille pas me tromper et m'en aller égarer vers les tentes de tes compagnons. Mais elle n'en peut rien tirer. Il la paie de flatterie, de tendresse, et lui promet de beaux colliers. Elle est une pauvre fille, lui riche. Manifestement, il a peur qu'elle ne s'attache ainsi à lui. Est-il en âge d'épouser? N'aimerait-il pas mieux oublier? On ne peut le dire. Voilà une histoire bien commune. Mais la suite ne l'est pas du tout. Une charmante et terrible puissance se révèle en cette fille. Elle est enlevée, transformée par l'amour et la passion. Les sept esprits y sont, comme dans la Sarah de Tobie, la Madeleine qui d'un mot fit un monde. La force de celle-ci, c'est de n'en avoir pas, de suivre éperdument l'orage, de ne rien dérober, de dire « je meurs d'amour », de dire ce que femme ne dit jamais. Dès lors, le petit poème, comme la trombe ailée des démons, se précipite, emporte tout. L'aimé vient, revient malgré lui, en vain il échappe, il élude, même un moment l'impie, il rit de la pauvre petite, il se vante avec ses amis. Il a beau faire, il est conquis. La merveille, c'est que réellement, dans cette nuit, elle a grandi de façon surnaturelle. Elle est noble et fière, elle est reine. Il est étonné d'elle, il en a presque peur, tant elle est imposante. Et belle. Bref, c'est sa dame de maison. On sait ce chant par cœur, la belle scène où elle est gisante, malade, oh, si malade, et s'évanouissant, soignée par ses amis, la nuit orageuse et terrible, où, toute prête et parfumée, elle l'attend, l'entend, croit le sentir, tressaille. Malheur, il est parti, elle court la ville ténébreuse, rencontre des soldats, est battue, est blessée. Il a bon cœur, il est touché, revient, apporte des bijoux, des chaussures et de beaux habits. Là, il est ébloui d'elle. Il ne rit plus. Il se prosterne. Gisante encore, languissante, ayant perdu ses vêtements dans cette nuit si cruelle, où, ne pouvant les supporter dans la lourde chaleur du soir, elle attend, elle est à lui. Il est saisi de pitié, de tendresse et d'admiration. Il énumère ses charmes, décrit à Navarre son trésor. Si abandonnée, si soumise, elle n'en est pas moins digne et en inspire tout respect. Il met à ses jolis pieds nus d'élégantes et riches chaussures. Elle marche, c'est une fille de prince. Oh, ma belle, que tu es noble, que tu es reine dans l'amour. Tes cheveux sont la pourpre sombre qui consacre le front des rois. Ta tête est comme le Carmel. Ton nez est fier comme la tour qui, d'un promontoire du Liban, regarde les braves Damas. ta gorge est la grappe pleine de nos riches raisins de Judée. Ta taille est celle du palmier, oh oui, j'irai sur mon palmier et je cueillerai mes fruits et ton sein sera ma vendange. Ce mot tombe comme une étincelle, elle se jette à son cou, elle s'écrie, douce parole, c'est comme un vin délicieux qu'on savoure, qu'on passe et repasse entre les lèvres et les dents. Partons donc. Ce mot tranche tout. « Partons, dit-elle, allons !» Et le dernier chapitre montre très bien qu'elle va s'établir chez lui. « Vivons dans les campagnes. Quel bonheur de voir le matin la fleur de la vigne et des fruits. Ah, les miens seront tout à toi !» Le soir est venu, ils arrivent dans la campagne solitaire. Elle dit amoureusement « Je sens la mandragore qui rend les femmes fécondes. » Tendre insinuation qui, se semble, n'est pas perdue. Le lendemain matin, en la voyant tout autre, et déjà mère peut-être, comme transfigurée de je ne sais quelle grâce solennelle, il s'écrie orgueilleux, avec l'emphase d'Orient, « Oh, quelle est celle-ci molle et voluptueuse qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ?» Tout cela, c'est nature, c'est le sang du midi, c'est ce climat d'amour. Seulement, je l'avoue, on ne peut pas le lire sans avoir la tête pesante. J'aime mieux l'amour pur de Rama, de Sita, la Seine ou la Sainte Montagne, vierge autant que ses neiges versaient sur eux la pluie de fleurs. Ici, il y a trop de parfums, d'aromates âcres et forts et de vins médicamentés. Je ne sais si la Sulamite, comme Esther, passer 6 mois dans l'huile et 6 mois dans la myrrhe, mais l'huile parfumée qui nage dans la coupe d'amour fait qu'on hésite à boire. De verset en verset, la myrrhe, toujours la myrrhe, le parfum des embaumements. Il y en a pour au moins 3 morts, le nard, la noire racine indienne de valériane, herbe au chat, d'effet si puissant sur les nerfs. La cinnamone et je ne sais combien d'aromates de toutes sortes, depuis l'odeur fade d'Ulysse jusqu'à l'amère et brûlante aloès qui lance tous les 10 ans sa fleur. Mais l'amour n'a-t-il pas assez de son ivresse, sans recourir à ces drogues étranges, propres à brouiller le sens, pervertir la volupté même? Tous deux s'aspirent, s'odorent, ne se distingue plus des parfums. « Je te suivrai, dit-elle, à ta suave odeur. » Et lui, languissamment, il dit tout au complet les exquises senteurs, divines émanations qui lui viennent de l'objet aimé. Tout cela malsain, maladif, la tête se prend fort, et voilà que cette ignorante, cette vierge d'hier, en présence du jeune endormi, a tout à coup des idées diaboliques. Est-ce sa faute ou celle de sa race? Innocemment impure, elle a du sang de Lot et de Mira. Oh, que n'es-tu, mon frère? Elle a l'air de gémir de ne pas pécher davantage. Bien plus, comme ultima ratio, plusieurs fois, elle emploie un surprenant appel, touche hardiment au plus saint souvenir. C'est la chambre où ma mère... Voici l'arbre où ta mère, impureté suprême et qui sent le sépulcre. Ce mot dit au matin de la dernière nuit est le consummatum. Il est suivi de la formule décisive qui finira tout et qu'on pourrait traduire à la vie, à la mort. Mets-moi sur ton cœur comme un sceau. L'amour est fort comme la mort, c'est-à-dire irrévocable. Il la prend, il la serre, et la voilà épouse. Il voudrait avoir tout, la mère et ses trésors, pour les donner. Du moins, il lui donne ses biens, ne veut rien avoir qu'avec elle. Elle est tendre, mais qu'elle est fine. Elle songe à sa famille. Nous avons une petite sœur qui n'a pas de mamelles encore. Qu'en ferons-nous quand viendra l'âge où on pourra lui parler? Elle se souvient très bien des 2 sœurs. Femme de Jacob, de Lia et Rachel. Quand viendra la seconde femme, comme il arrive en Orient, elle aime mieux la donner elle-même, prendre l'enfant qui lui sera docile, faire le bonheur de la petite pour qui elle est mère plus que sœur. il sourit, il comprend, et sous forme délicate, orientale, promet ce qu'elle veut. À quel point donc celle-ci est-elle maîtresse, épouse et sûre de la situation ? Je me sens forte comme un mur qui défendrait une ville. Mes mamelles ont gonflé, monté comme une tour, quand j'ai trouvé ma paix en toi. Cependant, on entend du bruit. Ses jeunes amis l'ont découvert. Ils viennent le chercher, ils l'appellent. Mais elle ne peut lui donner congé. Tout est fait, qu'il aille et s'amuse. Va, mon doux fang de biche, au mont parfumé. Fuis, gazelle. L'explication que je donne est prise non dans les nuages de la vague fantaisie, mais dans le texte suivi, serré de près, ramené au vrai caractère local, sensualité de Syrie et, par moments, âpreté juive. C'est à Salomon même, à sa vaste expérience de la femme, que j'ai demandé de m'interpréter le cantique. J'entends ici par Salomon les livres qu'on lui attribue, les Proverbes, l'Ecclésiaste, etc. Ces livres, amers parfois pour la femme, surtout syrienne, n'en caractérisent pas moins avec force son mystère, qui se traduit d'un mot « magie des sept démons ». Et ce n'est pas seulement dans la femme de plaisir, la Dalila, la Madeleine, ni dans celle d'intrigue et d'audace, Hérodiade ou Jézabel, c'est aussi dans la Vierge même, la jeune Sarah de Tobie, sept démons dans cette innocente, tous amoureux, jaloux, dominants tour à tour, tous d'Astaroth à Bélial et d'Adonis à Belphégor, tous s'agitent et se la disputent. Les sept dieux de Syrie, poissons, serpents, colombes ou arbres enchantés, sont nés du dieu Désir. C'est lui qui doux celle-ci. Quand elle sort du cellier rougissante et dit « Encore !» Une iris est sur elle. Est-ce l'éclair arabe de Jéricho, de la fille aux yeux sombres? Est-ce la mollesse mourante des pleureuses de Byblos? Est-ce l'énigme bizarre, voluptueuse, que porte encore la juive orientale qu'on voudrait deviner? Tout cela y est, mais bien plus ce qui sera la tentation elle-même, l'humble aveu de la femme qui l'abaisse, mais la rend si forte. La magicienne éperdue de Théocrite ou de Virgile, qui fond comme au feu du brasier, qui par l'effort désespéré rappelle un amant trop aimé, garde plus de noblesse et aussi trouble moins que la malade du cantique, défaillante parmi ses amis et qui dit sans détour « J'en meurs ». Elle unit les deux caractères de celle qui, entre toutes, doit opérer la chute. Elle a de l'ange et de la bête. Elle est reine et elle est esclave, soumise et brûlant d'obéir. C'est par là qu'elle règne, qu'elle est irrésistible. Elle a la force enveloppante. Salomon le dit à merveille, lui qui l'avait tant éprouvée. Elle est comme le raie du chasseur. Elle est le filet du pêcheur. Trois choses sont insatiables, et une quatrième encore qui ne dit jamais assez. L'enfer, le feu et la femme, la terre qui boit altérée. Proverbe 30-16. La merveille dans le cantique, c'est qu'au moment où elle semble abandonnée à la nature, où la douce femelle syrienne paraît égarée dans le rêve, la parfaite lucidité juive subsiste, timidement se révèle. Si jeune, comme elle sait déjà le cours de la vie d'Orient et la brièveté de l'amour. Cela s'accorde tout à fait avec ce que les proverbes de Salomon disent ailleurs de l'esprit avisé, habile de la dame de maison, de son aptitude aux affaires. Elle augmente la fortune, fait faire des tissus, les vend. Du fruit de ses mains, elle acquiert, achète une vigne, elle devient propriétaire et elle s'habille de pourpre. Mais tout cela sans nuire aux intérêts de son mari, un bonhomme ancien de la ville qu'elle dirige en ses jugements. Salomon, qui eut 700 femmes et fut, dit-on, terriblement asservi, gouverné par elle, ne leur a pas pardonné. « J'ai trouvé, dit-il, que la femme est plus amère que la mort. » Il conseille au mari ce que sans doute il fait lui-même, c'est, quand elle est insupportable, de se réfugier dans un coin, de fuir sur la terrasse au plus haut de la maison. Proverbe 25-24. De plus en plus, selon l'avis du sage roi, le juif est sur la terrasse, loin, très loin de sa femme, occupé ou de faire ses comptes ou de nombrer les mots, les lettres de la Bible. Dans sa vie tremblante, inquiète, il craint la fécondité, suit le conseil de l'ecclésiastique. « Je te souhaite peu d'enfants. » La sagesse, pour rassurer tout à fait sa conscience, lui dit que même l'eunuque peut être béni de Dieu. Ajoutez un fait général alors, l'affaiblissement. Dans les malheurs incalculables, les révolutions imprévues, continuelles, qui suivirent Alexandre, le cœur et la force baissèrent. Plus d'hommes, tout peuple perd le nerf des mâles. Vico a dit ce mot profond. Dans le langage antique, qui dit vaincu dit femme. Ces ostrices, gravant ces victoires, donnent aux vaincus le sexe de l'épouse. Comme une épousée d'Orient, le captif a l'anneau à la lèvre, au nez, à l'oreille, pour être mené où l'on veut. Des peuples entiers sont traînés, des troupeaux d'hommes et d'enfants. De main en main, de maître en maître, ils passent avec leurs dieux d'Asie, leurs rites voluptueux et sombres. Une chose à ce moment trouble apparaît toute nouvelle, d'infinie portée, le roman. L'histoire, même sérieuse, des Juifs portait sur un fond romanesque. Le miracle arbitraire où Dieu se plaît à choisir dans le moindre, dans l'indigne même, un sauveur, libérateur, vengeur du peuple. Dans la captivité, la banque ou l'intrigue de cour, les fortunes subites lancèrent les imaginations au champ de l'imprévu. Les très beaux romans historiques de Joseph, Ruth, Tobie, Esther, Daniel et bien d'autres parurent. Toujours sur deux données, c'est le bon exilé qui, par l'explication des songes et l'habileté financière, devient ministre ou favori, ou bien la femme aimée de Dieu arrive à un grand mariage, à la gloire, séduit l'ennemi et, chose étonnante, contraire aux idées mosaïques, est le sauveur du peuple. Pour Moïse, elle était impure, dangereuse, avait fait la chute. Mais c'est justement la prise imprévue que saisit le roman. Dieu fait de la femme un piège, se sert de sa séduction, par elle opère la chute de celui qui l'a condamnée. L'amour est une loterie. La grâce est une loterie. Voilà l'essence du roman. Il est le contraire de l'histoire, non seulement parce qu'il subordonne les grands intérêts collectifs à une destinée individuelle, mais parce qu'il n'aime pas les voies de cette préparation difficile qui, dans l'histoire, produit les choses. Il se plaît davantage à nous montrer les coups de dés que parfois le hasard amène, à nous flatter de l'idée que l'impossible souvent devient possible. Par cet espoir, le plaisir, l'intérêt, il gagne son lecteur, gâté dès le début, et qui le suit ensuite avidement, à ce point qu'il le tiendrait quitte de talent, d'adresse même. L'esprit chimérique se trouve intéressé dans l'affaire. Il veut qu'elle réussisse. Ces romans juifs sont sensuels, même le plus admirable, Ruth, si finement conduit, irréprochablement lubrique. Ils sont dévots, ils sont courbés comme prosternés sous la crainte, crainte de Dieu, crainte du roi, mais ils ne déguisent rien du manège par lequel la femme est habilement mise en avant, exploitée. Judith dit expressément que le grand prêtre l'envoie à la tente d'Holoferne. Dans Esther, on dit comment l'adroit Mardoché se faufile près des eunuques pour faire présenter, préférer sa nièce. Le beau roman d'Esther est profondément historique, d'immense instruction. Ce n'est pas seulement à Suse ou Babylone que la captivité conduit la belle et onctueuse fille. Elle entrera partout. Esther, par les 1000 aventures de l'esclavage, voyage aussi dans l'Occident et les 1000 sœurs d'Esther. Si les Asiatiques cherchaient, volaient des Grecs, filles superbes du Péloponnèse, riches de saints, de jeunes voix puissantes, belles chanteuses qui les amusaient, les Occidentaux, au contraire, voulaient les Syriennes, les Gréco-Phéniciennes de Chypre, d'Ionie, des Cyclades, de ces nids de colombes fondés jadis pour Astarté. Celles-ci n'avaient pas couru le Tégète, dansé, lutté, pris les formes accomplies que l'art fit éternel. Elles semblaient plus femmes en récompense, molles, lascives, amoureuses en naissant. Assouplies aisément à tous les arts luxurieux, elle faisait du plaisir une dévotion, de la honte un office, un rite. L'intelligent marchand d'esclaves, l'homme d'Éphèse ou de Cappadoce, plus tard les chevaliers romains qui faisaient ce commerce, achetaient, préféraient ces filles d'Orient, de sang voluptueux. Ils achetaient les juives, modestes et contenues, au fond d'ardeurs bizarres, s'il faut en croire le prophète, jusqu'à étonner la Syrie. Hantée du sombre esprit qui dort sous la mer morte, elle priait pour être outragée. Ézéchiel 16, 33. Ces rêveuses emportaient leurs rites d'impureté, de purification, peurs et remords, désirs, fétiches. L'esclavage, puissant véhicule pour répandre les femmes et les dieux, menait partout ceux de Syrie. Et c'est à force d'être esclaves qu'ils devinrent les maîtres du monde. La Syrienne, suivant sa destinée, de sérail en sérail et d'outrage en outrage, les 7 démons aidant, souvent n'allait très haut. Celui qui l'avait eue petite, dédaignée, revendue, la revoyait un jour siégée, épouse d'un tétrarque, d'un romain, sous le nom qui la déguisait, Drusilla, Procla, etc. De noms romaines et d'âmes juives, sentant toujours Esther, elle agissait par un charme morbide, l'odeur voluptueuse et funéraire des Adonis, les parfums d'un dieu au cercueil, par la magie du deuil qui fait dire aux Romains « Oh, que tu me plais dans les pleurs !» Martial. Nombre de femmes qui portent des noms grecs venaient des temples phéniciens répandus dans les îles et pouvaient être orientales. Les Délia, les Lesbia de Catulle, Tibulle et Properce, ces filles des Cyclades que leurs amants nous peignent amoureuses et dévotes, n'ont-elles pas la même origine? Elles étaient élevées avec soin par des maîtres avares qui en tiraient profit. Cultivées et lettrées, bien plus qu'aujourd'hui, ne sont nos dames du demi-monde. Elles n'étaient pas aux passants. On les louait pour quelque temps. Elles suivaient, obéissantes, tel grand, tel maître temporaire, parfois aux durs voyages, aux guerres chez les barbares, comme la Lycoris de Virgile. On voit que cette belle, qui inspirait à Gallus tant d'amour et de désespoir, était un esprit délicat, capable de sentir les tendres adieux de la muse. Quand je partis, Délie consulta tous les dieux. Properce. Les dieux à coup sûr de Chaldée, d'Égypte, de Syrie, les dieux de l'Orient. Elles étaient fort superstitieuses. L'ennui de leur situation, le dégoût d'elles-mêmes, leur faisait désirer chercher les purifications. Elles fuyaient volontiers leur dur métier pour se faire, dans je ne sais quelle chapelle, leur liberté à elles. La plus chère, c'était de pleurer. Sainte chapelle, à la lueur fumeuse des vieilles huiles dont le Chaldéen, le Juif, alimente sa lampe, Délie, sous la voûte noircie, n'est pas seule à prier. La noble et fière matrone, de costume emprunté, sous la coiffure gauloise, est près de l'humble fille. La beauté de louage, la grande dame puissante, qui sait, la femme de César, à elles deux changeront le monde. À Rome, les mœurs rient des lois. La femme est pauvre par écrit. En fait, elle est très riche. Elle agit et gouverne tout. Tully, Volumnie, Cornélie, Agrippine nous montrent assez qu'ici, elles sont reines, tout comme les Marozia, les Vanozza du Moyen-Âge. Ce sont elles qui, par deux fois, minèrent Rome en dessous. Au moment où celle-ci frappait Carthage, repoussait l'Orient, elle lui défaisait sa victoire, introduisait la nuit dans la ville endormie l'orgie orientale, y mettait le cheval de Troie. Maintenant, second coup, l'orgie s'est épuisée. Mais les dieux de la mort, tous les dieux de l'Égypte, arrivent. La funéraire Égypte, ennemie de la mer, s'est embarquée pour Rome, menant avec Isis son dieu mêlé, nouveau, Sérapis, au boisseau sacré. Cet Osiris d'en bas, ce Pluton, à lui seul, engloutit, enterre 30 dieux. Il guérit, tue, ensevelit. Son chacal Anubis, l'aboyant croque-mort, est avec lui. Le bambino Horus dans les bras de sa mère et le blême Harpocrate qui suit d'un pied boiteux. Procession bizarre qui descend du vaisseau avec flambeaux, torches et lampes. Spectacle amusant et lugubre. Cela arriva sous Sylla qui faillit mettre tous ces dieux de la mort sur les tables de mort. Ils sont plus forts que lui. La femme n'a pas peur et les défend. César les maintiendra comme ami d'Isis Cléopâtre. Antoine aussi. Tous deux pour leur malheur. Tibère les proscrit, mais en vain. Si Rome adopta tous les dieux, pourquoi pas la mort même, le dieu dont l'amour, dont le culte grandit, fleurit de plus en plus. L'Égypte est encore trop vivante. On ira plus loin qu'elle dans le royaume sombre. On trouvera des ombres plus défuntes et plus mortes encore.